Bonjour.
Alors, ce territoire de recouvrance à Quelliverzon, il faut nous en dire un mot. Pourquoi celui-là? À quoi ça ressemble?
Pourquoi celui-là? Parce que les questions d'histoire populaire, mémoire populaire, sont des choses qui me tiennent à cœur. S'il y a un quartier historiquement populaire, emblématique de Brest, c'est cette rive droite qu'on disait recouvrance, qui est devenue, ça va de recouvrance jusqu'à Quelliverzon. Et ce petit bout, en plus de territoire, est un territoire où des changements apparaissent. Ça reste populaire, et pour autant, il n'y a plus les ouvriers de l'arsenal en masse comme il y pouvait y avoir auparavant. C'est un quartier où il y a mes petites marottes qui m'intéressent. C'est question de la multiculturalité qui intervient.
Oui, on ne se refait pas ethnologue, n'est-ce pas?
Évidemment, et au-delà de ça, on est sur le quartier en mutation par excellence de la ville de Brest. L'apparition des nouveaux buildings, c'était déjà le cas c'était le quartier des buildings dans les années 50 avec Quelliverzon qui apparaît.
Donc Quelliverzon, c'est quoi? C'est derrière les Capucins, c'est ça en gros?
C'est ça, ouais. C'est l'ancien nom, je pense qu'on va dire, des Capucins, parce que progressivement, à l'endroit où se trouve Quelliverzon, on a l'arrêt de tram Capucin. Donc des changements aussi urbains qui sont intéressants à regarder, à mettre en relation avec l'histoire.
Un quartier qui monte dans tous les sens du terme, c'est ça qui est rigolo aussi. Ça monte géographiquement, c'est quand même une montée tout ça.
C'est ça. Se pose aussi évidemment la question de que deviennent les habitants qui sont sur le territoire avec tous ces changements qui apparaissent.
Est-ce que ça reste homogène malgré tout? Est-ce que ça a vraiment du sens de parler de recouvrance à Quelliverzon?
C'est une grande question. En effet, c'est deux quartiers en un. C'est une volonté politique de se dire il y a un quartier, toute une bande de territoire de recouvrance à Quelliverzon sur lequel on va borner un quartier prioritaire parce que tout simplement il y a une grande pauvreté qui est encore présente sur le territoire. Plus de 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ce n'est pas négligeable, mais avec deux dimensions. Donc sur Quelliverzon, on a plutôt là du logement public, géré essentiellement par BMH.
HLM, quoi, voilà.
HLM, mmh. C'est ça. Et par contre, quand on est sur recouvrance, c'est en majorité du logement privé, mais du logement privé locatif, ce qu'on appelle souvent le privé social de fait, parce que en mauvais état et qui permet...
Donc pas très cher.
C'est ça, qui permet ou qui permettait aux populations les plus démunies de trouver un logement dans Brest.
Ouais, il faut peut-être en parler aux patients, on va y revenir. Alors ce projet qui s'appelle, qui a un joli nom, hein, La Ville au Grand Air, en quoi consiste-t-il? Quelle était l'idée?
C'était que se passe-t-il sur ce territoire? On nous parle d'un territoire, le territoire populaire, c'est un quartier prioritaire, mais je remarquais que quand on allait dans les réunions de concertation ou dans tous les moments d'échange pour parler du territoire, on a quand même beaucoup de personnes qui parlent à la place d'eux. Ma volonté, c'est toujours comment on va réussir à avoir la parole des premiers concernés.
Ouais. Et tout le monde n'est pas représenté, en fait.
C'est ça. Et je me suis dit, prenons une position qui est celle du piéton. Quand on se promène dans la ville, tous les lieux extérieurs, comment ça vit? Et c'est quoi l'âme populaire du quartier qu'on peut ressentir en se promenant sur le territoire?
Et toujours à base de photos et de témoignages, c'est ça en fait. Hein,
c'est ça, toujours cette base de photos, de témoignages, et de plus en plus, toujours essayer de confier l'appareil photo aux habitants, le mettre sur un trépied en disant « mais qu'est-ce que vous avez envie de montrer ?» et « à quel endroit vous avez envie de vous montrer ?» Faire ceci avec plusieurs personnes, que ce soit
en même temps.
Que ce soit une discussion entre moi, un interlocuteur, mais un tiers aussi, qui va aussi donner son grain de sel. Et aussi, il y a cette question pour la photographie du droit à l'image, où on aime bien faire signer des autorisations. Et avec certaines populations, je ne sais pas si c'est marginal ou même en marge de la légalité, ou qui n'ont pas envie de donner leur vrai prénom, leur vrai nom de famille, leur date de naissance, leur lieu d'habitation, quand ils en ont, j'ai choisi de faire des autorisations orales, mais faire en sorte que, quand je demandais pour l'autorisation d'exposition, faire en sorte qu'il y ait toujours une ou deux personnes pour dire « on est d'accord, tu es d'accord pour être affichée sur les murs.
Alors voilà, c'est ça, affichée sur les murs, c'est quand même ça le grand truc, la forme en tout cas, vraiment sympa, d'un journal mural. Pourquoi, comment, pareil ?
Pourquoi ? Eh bien pareil, ça va être toute cette histoire de l'information à donner au grand public. Donc certes, il y a très longtemps, il pouvait y avoir les crieurs publics, mais en même temps qu'il y avait les crieurs publics, les municipalités, même du temps du Moyen-Âge, pouvaient afficher sur les murs du texte et aussi de l'image. Donc on va essayer de dessiner aussi ce qu'il se passe pour les personnes donc, qui sont éloignées de la connaissance écrite. On est sur quelque chose qui existait encore en Chine, parce que là, je pense qu'avec le numérique, ça y est, ça a complètement disparu. Mais il y a quand même beaucoup de pays où les journaux, soit on les affichait sur les murs, soit on les affichait sur des pinces à linge pour que tout le monde puisse les lire et savoir ce qui se passe sur le territoire.
Et alors là, il y a 8 panneaux.
Il y a 8 panneaux qui sont disséminés sur le territoire, certains qui font 4 mètres par 1,50 m, qui sont sur des murs, et d'autres plus sur des panneaux autoportants, 2 mètres par 1 mètre à peu près. Au départ, j'allais voir les habitants qui acceptaient de parler avec moi. On échangeait, on faisait des photos, on se dit « on va faire une exposition ». Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. L'idée, ce serait de faire les choses en extérieur, mais je ne sais pas comment. Et c'est progressivement que, donc, travaillant en noir et blanc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, sur le côté, justement, ancien, on est sur le quartier historique de Brest. Donc, cette dimension de le bon vieux temps, on peut aussi l'interroger avec de l'actualité et faire croire presque qu'à travers une esthétique ancienne, on va parler du vieux Brest. Et oui, en fait, on y parle, on en parle. Mais on va parler vraiment de l'actualité avec les personnes qu'on va croiser dans la rue aujourd'hui ou qu'on va croiser quand on va faire les courses, quand on va sortir, jouer avec les enfants dans les squares. Réussir à montrer vraiment la diversité des activités qui se passent en plein air.
Et alors, comment s'est fait le recrutement des gens qui témoignent, qui participent à ce journal mural ?
Le plus simple, c'est de se promener aussi avec l'appareil photo dans la main. Un espèce de truc un peu bizarre.
Et qu'est-ce qu'il est ? Il est spécial, cet appareil ?
En fait, c'est un appareil qui date des années 70.
Ouais, donc il ressemble pas à tous les appareils.
C'est ça.
Mmh.
C'est du moyen format. En plus, j'ai le trépied avec. Et après, je regarde les endroits où il y a des gens qui sont arrêtés. Je leur dis bonjour. Je regarde comment on peut réussir à continuer la discussion. Donc pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait du beau temps. On est sur un quartier à ce niveau-là où c'est la première fois que ça m'arrive sur plus de 200 personnes rencontrées. Des personnes qui m'ont accueilli chez eux, il y en a eu deux.
Donc dans le Haut Jaurès, c'était différent ?
Dans le Haut Jaurès, c'était différent parce que là, j'allais voir des commerçants. Donc un commerçant, le principe, c'est qu'on va chez lui, on va dans sa boutique. Mais pour mener des ateliers autour de Jaurès, j'avais pu me rendre à Pontanézen, à Kérourien. Et l'entrée chez les habitants était beaucoup plus simple. Certes, c'était avant Covid.
Ah oui, il y a ça aussi.
Mais même après, avec les cartes postales qu'on avait réalisées, j'ai pu entrer comme ça chez une diversité de personnes.
Alors que là, non.
Là, ça ne se fait quasiment pas.
Et alors pourquoi ? Est-ce que, parce que le logement est justement trop insalubre ou, enfin, pas,
on a évidemment ces questions-là qui peuvent apparaître. Donc le logement, en effet, pour certaines personnes, donc il n'est pas, il est pas, c'est pas dans un grand état de, je sais pas, c'est de dignité, mais il y a cette dimension-là. On n'ose pas forcément accueillir les gens. Si on fait un entretien, on va plutôt se poser en extérieur.
Et du coup, les gens qui ont répondu, alors, c'est les gens qui sont dehors, c'est ça ? Donc il y avait un biais peut-être, ou est-ce qu'on pouvait trouver toutes sortes de gens dehors, en fait ?
Les gens qui ont répondu, pour moi, il y avait cette volonté d'essayer de m'adresser aux catégories les plus populaires, ou dans leur diversité, sur le territoire, qu'on va croiser sur le territoire. Comment dire ? On peut avoir... Il y a plusieurs partenaires qui ont été importants pour moi. Il y a eu le CCAS, donc installé juste à côté des halles de recouvrance, une barre d'immeubles qui va bientôt être démolie, mais où il y a quasiment 100 logements avec des personnes logées par le CCAS, suivies par une assistante sociale. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a repris pied dans, dans le logement, on puisse après faire une demande dans l'habitat social.
Mmh. D'ailleurs, le centre communal d'assistance sociale, il en est question. Il y a un petit encadré dans un des journaux. On va passer au fond, alors, parce qu'il y a tellement de choses sur ce qui est raconté. Il y a à la fois donc description des lieux, hein, c'est ça. On parle de certains lieux. Moi, il y en a un qui m'a interpellée, c'était... passer au muret, qu'est-ce que ça veut dire passer au muret à recouvrance ?
Passer au muret, justement, c'est là, on est juste à côté des halles de recouvrance. Ce qui était important aussi pour moi, c'était réussir à proposer le contre-pied de discours assez faciles qu'on va entendre sur ce sentiment d'insécurité qu'on pourrait ressentir sur certains endroits. Mmh. Et donc, le Super U de recouvrance est un endroit où on va nous dire, là, j'aime pas trop passer le soir, ou j'aime pas trop passer même en journée, parce que il y a des personnes un peu alcoolisées, il y a une petite tension qu'on va sentir. Et donc, certaines personnes ont leurs itinéraires pour essayer de le contourner. Et moi, je suis plutôt allé frontalement à tous ces endroits-là dont on parlait dans des réunions de concertation, dans la presse locale également, ouais, ouais. Qui est friande de ce genre d'informations. Et donc, en effet, il y a un petit muret juste à côté du CCAS où se retrouver, parce que là, il ne fait pas très beau non plus, donc on ne va pas forcément se poser à cet endroit-là qui est ouvert à tous les vents. Et donc, on s'y retrouvait pour parler, certains aussi pour boire. Et c'était l'un des lieux de rassemblement, et pas uniquement pour les personnes qui vivent dans la barre, mais qui peuvent venir d'un peu ailleurs.
Une sorte de forum de fête, en fait. Et par contraste, les Capucins, c'est un lieu qui est un peu rejeté par ces populations-là.
Pour certains, en effet, certains vont avoir ce sentiment que ce lieu n'est pas fait pour eux, et ne vont pas y aller. Pour autant, il y en a d'autres, donc pour les plus à l'écart du logement, pour ça, j'ai passé beaucoup de temps au centre d'accueil de jour, le phare géré par la Croix-Rouge.
Donc là, c'est des exilés
Là, c'est pas que des exilés, mais c'est des sans-domicile fixe qui vont se poser ici pour la journée, prendre une douche, éventuellement aussi se faire... une pause dans un vrai lit pour dormir, se restaurer un peu. Et certains d'entre eux, justement, une fois que ce centre d'accueil de jour ferme à 15h, hop, ils partent à la bibliothèque des Capucins pour continuer leur partie de Scrabble, bouquiner, être au chaud.
Oui, déjà.
Certaines personnes qui me disent, mais les Capucins, c'est heureusement que ça existe, c'est ouvert jusqu'à minuit. Donc, pour trouver un endroit où dormir, c'est qu'à partir de minuit que la question peut se poser. Il y a aussi cette réalité. Donc, un côté pratique à cette ouverture des Capucins et d'autres personnes plus jeunes qui font du breakdance et pour danser, qui disent oui, pour l'instant, il n'y a que les Capucins où on peut réussir à se retrouver. Il n'y a rien sur le quartier où on peut réussir à s'exprimer.
Oui, donc quand même, ça devient un nouvel élément structurant de cet ancien quartier. Est-ce que le tram aussi, c'est le cas, non ?
Le tram également. Plusieurs personnes me disent qu'avant, de toute façon, ils n'aimaient pas prendre le bus. Et donc, au final, ne se déplaçaient pas forcément beaucoup, beaucoup sur le territoire. Alors que le tram, c'est une facilité. On va beaucoup plus facilement le prendre pour se déplacer, même si certains, après, donc, disent « mais le tram, c'est lent, si j'y vais à pied, je mets toujours 5 minutes de plus pour faire mon itinéraire et ça ne me coûte rien ». Donc, il y a aussi ces questions-là.
Mais ils peuvent sortir du quartier avec le tram, s'ils veulent.
C'est ça. Ouais. Et en effet, il y a beaucoup de personnes que je vais croiser dans différentes structures sociales qui vont prendre le tram et on se retrouve à l'arrêt de tram ensemble pour discuter. Donc, évidemment, les arrêts de tram, c'est des lieux aussi où il est intéressant de se poser pour regarder qui monte, qui descend, qu'est-ce qu'on va faire, quel sac de course on va avoir.
Il y a peut-être des murets aussi aux arrêts de tram sur lesquels on peut s'asseoir.
C'est ça, il y a des bancs, c'est couvert, ouais. Ce qui fait que certains arrêts de tram, je pense notamment toujours à celui des halles de recouvrance, il est beaucoup plus prisé que celui de... des Capucins, qui est vraiment celui-ci un lieu de passage.
Est-ce qu'il y a une gentrification perçue ou pas d'ailleurs hein, de ces quartiers du fait du tram, du fait des Capucins, du fait d'autres choses?
Étonnamment, sur les commentaires qui me disent cette gentrification, ils l'aperçoivent assez peu dans le bâtiment ancien.
Qui reste en mauvais état, en gros c'est ça quoi.
Ouais. Qui resterait en mauvais état, à part la rue Armory qui est en train d'être très bien refaite, avec des belles couleurs, des volets en bois, donc qui sont assez splendides, on peut dire. Hein. Ouais. Mais quand on regarde donc, derrière les gouttières de cette rue, il est assez fréquent de trouver un petit boîtier sur lequel il y a un petit code et on récupère sa clé pour un logement Airbnb.
Ah oui.
Donc il y a cette réalité qui peut être visible si justement on fait la petite souris et qu'on creuse un peu. D'apparence, on ne voit pas forcément ces nouvelles populations qui arriveraient sur le quartier, qui feraient vivre les choses différemment.
Du moins, ça n'a pas encore fait monter les prix en flèche aussi, peut-être, quoi.
Ça, si les prix ont monté. Pour ça, j'ai pu donner aussi quelques cours avec des étudiants en géo-architecture que j'ai fait travailler sur le quartier avec notre professeur sociologue. Deux étudiants vivaient sur le quartier, nous disaient le prix de leur logement. Et non, on n'est plus sur du logement à bas coût. Donc, on est sur des petits logements où on paye facilement 500 euros pour se loger sur le quartier.
Bah ça, c'est une nouvelle population, justement, je pense, les étudiants et étudiantes, non ?
Pas tant que ça, parce que c'était déjà le cas auparavant. C'était le quartier où les étudiants se logeaient pour pas cher.
Ah oui, et c'était donc, déjà le cas. D'accord.
Là, c'est un endroit où on continue à loger des étudiants, mais ça coûte plus le même prix. Par contre, ce qui va choquer le plus les habitants, c'est les nouvelles constructions qu'on voit entre les ateliers des Capucins et les tours de Quai-l'Iversan. Donc là, on a toute une zone qui avant était une zone militaire, qui a été redonnée à la ville et sur lequel on a des nouveaux immeubles qui vont se construire et des commentaires qui vont être assez intéressant, notamment des promeneurs de chiens. Les promeneurs de chiens sont des très bons urbanistes sans le savoir. Ils se promènent et ils se promènent partout parce que il faut beaucoup marcher. Et donc ils se promènent également dans ces quartiers-là et ils sont là. Non mais ces immeubles, c'est terrible. On ne voit jamais personne au pied. Yep. Ça nous donne l'impression
qu'ils sont quand même déjà habités.
Oui, ils sont déjà habités. On a l'impression qu'il n'y a pas de vie. Les rideaux sont, les volets sont fermés jusqu'à 19h à peu près. On ne voit pas les voitures parce que de toute façon, en plus, il y a un parking souterrain. Ça donne cette impression de quartier ex nihilo qui ne vit pas avec toute la dynamique qu'il y a autour.
Alors, dans le ressenti des habitants, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a donc à la fois une solidarité ressentie encore, apparemment, elle persiste, cette solidarité. Et puis, quand même, malgré tout, la solitude, enfin l'isolement qui est pointé.
Oui, parce que on a quand même un quartier qui se caractérise par 7 logements sur 10 qui sont occupés par des personnes seules.
Et une population vieillissante, d'ailleurs, donc, notamment des veuves, beaucoup de veuves.
C'est ça, une population vieillissante. En effet, les hommes peuvent mourir un peu plus vite, déjà dans la moyenne nationale.
Ah oui,
sur le quartier, je pense qu'on doit être un petit peu au-dessus encore. On a un quartier où les femmes travaillent plus que les hommes. Donc c'est l'un des quartiers prioritaires de Brest où le taux d'employabilité et le plus haut, mais on va être sur du travail évidemment précaire, du petit revenu, saisonnier pendant l'été dans les serres, entre autres.
Ah oui, agricole, malgré le fait que ce soit en ville.
C'est ça, on a un territoire qui est à Brest qui est assez intéressant, où maintenant, je pense que la majorité des ouvriers de Brest sont des ouvriers agricoles.
Ah oui, donc il y a encore des ouvriers dans le quartier de recouvrance à Quai-l'Iversan, mais c'est plus l'arsenal, plus tellement. Quoi, hein.
C'est ça, c'est pour travailler dans les serres, donc ça peut être des hommes, des femmes, et après il y a aussi beaucoup de femmes qui peuvent travailler dans l'aide à domicile, donc
l'entretien
des personnes donc, qui sont nées, qui ont grandi sur le territoire ou les alentours, ou des personnes aussi venues d'ailleurs.
L'alcoolisation, alors ça, c'est une chose qui ne change pas, apparemment. Sa recouvrance sera toujours recouvrance là-dessus.
C'est ça, j'ai pas une grande connaissance du recouvrance auparavant. Et est-ce que recouvrance se distinguait par son alcoolisation par rapport aux autres quartiers de Brest? Je ne sais pas, mais actuellement, en tout cas, on a cette réalité qui est encore assez importante. J'avais notamment c'est un témoignage que finalement je n'ai pas mis dans l'exposition parce qu'il pouvait être un peu dur,
mais
c'est ça, une
ouais.
personne qui avait grandi dans la banlieue parisienne, qui avait fait un passage à la campagne, mais avait envie de retrouver la civilisation culturelle, pouvoir avoir accès justement à des spectacles, à la vie culturelle. Et elle se retrouve donc à Quai-l'Hiversant et donc elle découvre le quartier, des personnes justement bien fatiguées au niveau de la santé. Et elle me dit, au moment où je découvre que c'est l'alcool, là j'en prends une claque, parce que la cocaïne, j'étais habitué. Mais là, en fait, les gens ne se détruisent qu'avec de l'alcool. On a ce phénomène, et ça, je n'avais jamais vu ça auparavant.
Et ce n'est pas forcément des problèmes d'alcoolisation publique qui sont cités. Enfin, si, il y a quand même ça, mais... Parce que est-ce qu'on parle toujours d'insécurité dans ces quartiers-là? Enfin, est-ce que ça, c'est cité dans les témoignages?
Dans les témoignages, la question de l'insécurité peut revenir, et c'est... Il y a beaucoup de contradictions derrière, c'est-à-dire certaines personnes justement qui vont me dire « Non mais oui, au super, il y a de la violence maintenant, maintenant les gens se battent au couteau ». Et quand on revient en avant, en arrière, en leur disant « Mais il y a 30 ans, je pense que...
quand il y avait sacrées bagarres de bar déjà. Je
c'est,
pense,
ça, ouais. c'est ça, c'est ça. J'ai pas besoin de le dire, tout le monde y pense. Ouais. Et donc, si c'était pas au couteau, c'était à la chaîne de vélo. Enfin, ça faisait aussi des ravages. Mais on préfère oublier où les médias n'avaient pas ce relais. Enfin, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc on n'allait pas s'attarder sur ce phénomène. Et donc. Au-delà de ces endroits, justement, ces endroits, ça craint. On discute un petit peu plus avec les personnes, justement, qui y habitent. Et donc, elle nous dit, oui, par contre, au niveau des marches de l'arrêt de tram, là, je connais tout le monde. J'ai du mal à marcher. Quand je sors avec mon sac de course, ils me proposent de prendre le sac pour m'aider à le monter. Et j'ai des super gardes du corps, là. Et donc, on dit, mais... Ils sont où les personnes qui posent souci? Oui. Non, mais eux, il n'y a aucun souci. C'est vraiment des personnes sur qui on peut compter. Donc, au final, on se rend compte qu'il n'y a personne qui pose vraiment, vraiment problème.
Et alors, sur le mélange des populations, comment ça se traduit, ça, le mélange des origines?
Le mélange des populations, ce que je remarquais sur le... autour toujours de ce parking des halles de recouvrance, on avait quand même quelque chose d'un peu gênant pour moi, parce que du côté du Muret, on allait avoir plutôt une population blanche. Après, quand on allait dans la diagonale inverse, on avait un petit square, un petit banc. Là, on avait plutôt des Antillais qui se réunissaient. Et au niveau du tram, là, on a un espèce de mélange. Ça reste à peu près blanc, mais il peut y avoir donc deux, trois personnes de couleur aussi qui passent. Il y a quand même cette tendance au regroupement.
Une petite ségrégation, quoi, de fait. Quoi.
C'est ouais, ça. Ouais.
Ça se mélange pas tant que ça.
Ça se mélange pas tant que ça. Après, ça dépend des endroits. Quand on va du côté du phare, donc ce centre d'accueil de jour, là, on a un beau mélange, je trouve, qui se passe. On est tous dans la même galère. Et autre endroit qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas être que dans le dramatique ou dans la dimension ultra-pauvreté, on a des lieux au milieu de ce quartier qui sont extrêmement intéressants. C'est le square Gégadin, donc un square assez grand dans lequel on va trouver un city-stade, on va trouver une aire de jeu pour enfants, on va trouver quelques bancs parce qu'il y a la maison de retraite qui est juste à côté, on va avoir des structures pour faire de la musculation en plein air. Et notamment au City Stade, c'est un lieu où, quand les beaux jours arrivent, il y a toute une population tahitienne qui va venir en fin de journée pour jouer au foot ou au volley. Et pas que tahitienne, justement. Comme ça, j'ai pu rencontrer un Érythréen que j'avais déjà croisé il y a quelques années, qui se retrouve ici parce qu'il a vu qu'il y avait des activités sportives collectives. Et il a peut-être demandé la première fois où on lui a dit il n'y a pas de souci, et on, sans lui demander d'où tu viens. Et il y a cette ouverture culturelle. Donc, un étudiant aux Beaux-Arts qui vient du Maroc aussi, que j'ai trouvé ici, qui m'a dit je suis passé une fois, j'ai vu qu'il y avait de la bonne ambiance, j'ai demandé, et maintenant j'y passe tous les soirs.
La vie de l'exposition qui est donc en cours, il y aura des balades qui seront organisées autour. L'affichage, là, enfin, comment ça se passe qu'est-ce que ça crée, cette exposition dans le quartier?
Déjà, ça crée de la fierté. Il y a cette chose qui était importante et pour ça, je peux féliciter Nathalie Billan qui a fait le graphisme, qui a réussi à rendre quelque chose où il y a de l'humanité dans toutes ces paroles qui sont posées. C'est
beau, c'est bien équilibré entre les photos, le texte, c'est très chouette.
Et quand je faisais les collages, il était assez fréquent de voir des personnes qui s'arrêtaient pour discuter. Et donc, ça marchait. Les gens étaient contents, soit de reconnaître des personnes, une jeune qui vit au CCAS avec ses parents. On était en train de préparer un panneau. Et elle dit « Oh, mais là, je connais quasiment tout le monde. C'est mon voisin, etc. » Et elle disait ça avec un sourire, une fierté de se dire « Oui, j'appartiens à ce territoire. » Et les gens qui vont être en photo, c'est les miens. Donc, il y a ce côté-là qui est assez important. Encore cette semaine, avec ce beau temps qu'on a actuellement, on avait un petit panneau qui commençait à se décoller. J'y passe avec le collègue qui tient l'épicerie de Kelly Verzan pour recoller un petit peu le panneau. On pose l'échelle, une personne passe, ne me reconnaît pas, parce que j'avais la capuche, il pleuvait, et dit « Faut pas l'enlever, notre expo hein !» Et donc, il y avait cette appropriation de l'exposition. Cette personne qui disait ça, c'était une personne que j'avais rencontrée au local social et qui avait dit « Non, moi, j'ai pas envie d'être pris en photo, j'ai pas envie de raconter quoi que ce soit, faites vos choses. » Mais donc, en voyant actuellement que ça existe, il y a une fierté à se dire « Non, mais cette chose-là, ça parle de nous, c'est notre histoire, laissez-nous vivre... » 24 heures sur 24 en extérieur.
Ouais, donc ça vaudra le coup de faire une saison 2, alors si possible.
Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on prépare. C'est un peu ce que je dis sur la plupart des expositions que je fais. C'est globalement, une exposition, on peut commencer à la faire à partir du moment où elle est terminée. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où, hop, on a rendu les choses au public. Et donc, maintenant, on attend vos réactions. Réagissez en positif, en négatif aussi. Et donc, ce qui arrive, Pascal est une personne que j'ai croisée qui dit « Eh, mais moi, j'y suis pas. Prends-moi en photo. » Et je lui dis « Je veux bien te prendre en photo, mais je préférerais même que ce soit quelqu'un d'autre qui te prenne en photo. Et par contre, il faut qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que tu as envie de nous raconter de toi, ton histoire sur le quartier. » Parce que
toutes les personnes photographiées ont raconté quelque chose. C'était le deal, entre guillemets. Quoi.
Il devait me parler de pourquoi il choisissait cet endroit-là cette vue qu'il y avait derrière. Donc ça là, j'ai le panneau, donc comment ça va avec la galère donc qui se passe donc devant le CCAS. On voit Carlos donc parler dans un français très très limité, travailleur portugais, et c'est très de manière quasi automatique, il m'a sorti sa carte de séjour portugais pour me dire « je suis portugais ». Et donc je lui ai dit « est-ce qu'on peut prendre la photo ?» Et il me dit « oui, il n'y a pas de problème ». Et donc derrière, il y a une histoire. On est ici, il travaillait, maintenant il a le dos cassé, donc pareil, il ne peut plus travailler. C'est ce qui arrive sur beaucoup de personnes, donc il y a beaucoup de pensions justement d'invalidité sur le quartier, chez les hommes surtout. Et donc toujours une multitude d'histoires. Et donc, si la première saison, d'une certaine manière, est assez thématique, la deuxième saison, je pense qu'elle sera plus sur des récits individuels.
Parce que
l'idée, c'est que j'écrive, pareil, de moins en moins, et que ce soit le plus possible les habitants qui, eux, vont vouloir me raconter des choses sur leur manière de vivre le quartier. Et cette deuxième exposition, on va la faire en partenariat avec le Macorlan, donc l'un des rares lieux culturels qui existent sur ce territoire.
Et là, donc, il y aura des balades qui seront proposées, mais finalement, si les habitants veulent, ils peuvent en faire eux-mêmes, quoi. Des balades.
C'est
des balades
ça.
Guidées et commentées.
Non seulement, oui, pour les balades, on va solliciter les habitants et je n'ai pas non plus envie d'être le conférencier de service. Et pour ça, on a décidé, donc avec l'association Iriba, avec laquelle on fait à nouveau ce projet, de solliciter Monica Campo, donc une metteuse en scène, comédienne, qui a toute une démarche théâtrale de théâtre-action auprès des populations souvent en situation d'insertion. Et donc, ça me plaisait de dire, oui, ces balades, on va essayer de les construire autrement. Et si elles ne sont pas complètement théâtralisées, on regarde justement comment une metteuse en scène peut nous apporter aussi des éléments pour faire une balade un petit peu décalée, mais où les personnes qui vont raconter cette histoire, c'est essentiellement les habitants ou les anciens habitants qui nous parlent de ce Brest populaire dans sa diversité. Et ça me plaisait aussi de faire ça avec des femmes.